Entretien avec notre évêque.
Bien que confiné, il se passe beaucoup de choses dans notre église nationale et dans notre église diocésaine. Bonjour, Monseigneur.
Bonjour Isabelle, je suis toujours très heureux de retrouver nos auditeurs à l'antenne chaque semaine.
Qui sont eux aussi
Ou
très heureux.
presque.
Ouais, on a beaucoup de retours très, très positifs de nos auditeurs. Alors la semaine dernière, c'était le Père Luc Meyer, puisque vous étiez à la session plénière de la Conférence des évêques de France. Ça devait être à Lourdes, et là on comprend bien, c'était en visioconférence, mais n'empêche que cette session a quand même eu lieu.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait heureux.
Alors peut-être avez-vous évoqué l'impossibilité des célébrations eucharistiques en présence de fidèles, qui est l'actualité du moment ?
Oui, alors voilà, bon, je vais peut-être faire un petit compte-rendu, un écho, de vous donner un écho de ce que nous avons vécu. Donc en fait, on a eu une assemblée plénière très longue, puisqu'elle s'est étalée du lundi au dimanche, dans la mesure où nous avons commencé par deux jours de réflexion autour de l'écologie intégrale. Donc un deuxième volet, si vous voulez, sur ce thème, suite à la première séance qui avait eu lieu en novembre 2019, là c'était à Lourdes, hein, avec deux invités par diocèse. Donc nous étions très nombreux, nous étions 300 pour les deux premiers jours, sur le thème « cultiver la terre et se nourrir ». Voilà, donc ça a été passionnant, nous avons eu quatre intervenants, chacun captivant dans leurs compétences, dans leur matière. Donc nous avions à notre tour invité des diocésains, ce qui explique le nombre important de participants. C'était très intéressant, nous avons eu quatre contributions très riches. La première en particulier, c'est important, hein, celui qui ouvre une session comme celle-là, bon, il faut qu'il soit percutant, j'allais dire. Et donc Régis Dubourg qui est le directeur général de l'Assemblée des chambres d'agriculture en France et qui a été aussi un co-organisateur de ce rassemblement Terre d'Espérance qu'on n'en finit pas de reporter parce que ça devait avoir lieu au printemps, enfin 2020. Et puis, on en espérait pouvoir le reporter à l'automne. Et puis là, voilà, ça va être encore différé. Mais bon, on va y arriver. Et donc, ensuite, nous avons eu la présidente nationale de la FNSEA, donc le syndicat d'agriculture, que tout le monde connaît, et qui existe bien sûr aussi au niveau départemental, la FDSEA, donc Christiane Lambert, qui est une chrétienne, qui est issue de la jeunesse agricole chrétienne, la JAC, et qui nous a fait une conférence très enthousiasmante sur d'abord le bonheur qu'elle avait d'être agricultrice, hein, la joie que lui apportait ce métier, et comment aussi elle a accueilli et lu l'encyclique du pape François, Laudato si. Donc c'est intéressant qu'une présidente de syndicat au niveau national puisse nous donner un écho comme ça. Donc voilà, et puis nous avons eu aussi un jeune agriculteur, dont j'ai oublié le prénom, mais ce n'est pas grave. On retrouve de toute façon leur conférence sur le site de la conférence épiscopale, donc la CEF. Donc ceux qui veulent aller revisionner ou réécouter ces conférences peuvent le faire, c'est possible. Donc un jeune agriculteur de 25 ans, très passionné d'agroécologie ou d'éco-agriculture, comme vous voulez, qui nous partageait ses convictions les plus profondes. Et enfin, on a eu un jésuite qui a clôturé ce cycle de conférences, le père François Euve, qui est un physicien très reconnu d'ailleurs, qui a enseigné aux États-Unis, etc., et qui nous a fait, une lecture biblique et théologique de ce thème de la création. Voilà. Et alors après, c'était très, très bien organisé. On nous envoyait en salle. Alors évidemment, des salles virtuelles. Oui. Et des salles où on se retrouvait à 7, pas plus. Alors quand vous êtes 300, il faut une cinquantaine de salles. Et c'était vraiment passionnant parce qu'on se retrouvait pendant trois quarts d'heure avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et avec lesquels on réagissait sur ce qu'on avait entendu, et on évoquait ce que ça nous disait pour nos diocèses, pour, enfin, quelles leçons on pouvait en tirer, etc. Du coup, nous, les évêques, une fois cette session terminée, on s'est retrouvés pour parler à nouveau pour la question des territoires et paroisses. Territoires et paroisses, c'est un groupe de travail qui s'était déjà mis en route en 2019 également, avec Monseigneur Le Boulche, Laurent Le Boulche, l'évêque de Coutances, qui le pilotait. Et donc, on s'est retrouvés en forum, voilà, pour évoquer pas mal de choses, plusieurs thématiques, autour justement de ce lien entre territoire et paroisse, autour, par exemple, les fraternités missionnaires, l'itinérance missionnaire, le ministère et la vie des prêtres dans un nouveau rapport au territoire, la participation des laïcs dans la prise en charge des réalités pastorales, comment on peut penser l'organisme sacramentel dans ces territoires, hein, qui ont beaucoup évolué, qui se sont aussi appauvris, hein, à plusieurs points de vue. Donc on s'est retrouvés par forum pour débattre sur ces sujets-là. Voilà. Ensuite, question plus grave et plus douloureuse, mais il fallait bien l'aborder, nous avons fait un point d'étape sur l'avancée des travaux concernant les abus sexuels sur mineurs perpétrés par des prêtres ou des religieux. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on réfléchit à tout cela, et là nous y avons consacré pas moins de 3 heures dans l'ensemble de notre planning. Donc avec, en fait, pour avancer sur ces sujets difficiles, nous avons 4 groupes de travaux au niveau de l'Assemblée plénière, qui sont dirigés à chaque fois par au moins un évêque. Donc un groupe de réflexion sur le sens d'un geste financier, voilà, avec toutes les questions que ça pose encore.
Comme réparation vis-à-vis des victimes.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc on ne sait pas d'ailleurs très bien comment l'appeler. Il faut qu'on précise encore beaucoup de choses. C'est Mgr Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, qui préside ce groupe. Un groupe sur l'accompagnement des auteurs. Mgr Namias, Jean-Yves Namias, le pilote. Un groupe sur le travail de mémoire. Là, c'est l'évêque de Blois, Mgr Jean-Pierre Battu. Et enfin, un groupe sur la prévention, piloté par l'évêque d'Agen, Mgr Hubert Herbreteau. Et comme, bien sûr, il faut avancer vers un plus grand consensus autour de ces questions, eh bien, on a voté la décision de convoquer une assemblée plénière extraordinaire qui doit se vivre les 22 et 24 février prochains. Voilà. Donc, un travail, bien sûr, qui est toujours à réfléchir et à faire avancer.
Et jusqu'à maintenant, pardon, Mgr Scherrer, il y a eu beaucoup de choses de fait, hein, sur la pédophilie, et beaucoup d'avancées quand même de la part de l'Église.
Oui, bien sûr,
déjà,
mais
la réflexion qui est ancienne, et il y a déjà des actes concrets qui ont été posés. Il y a des lignes téléphoniques
pour les
victimes.
Oui, tout à fait. Alors ça, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses de fait depuis une grosse dizaine d'années, même depuis les années 2000, hein, qui ont été un peu les années
charnières.
Oui. D'ailleurs, nous avons pris le temps justement de nous redire. Là, ça a été un document écrit qui nous a été envoyé confidentiellement là, pour nous dire où on en était de ces avancées. Mais ce n'est pas un travail qu'on peut cesser. Il sera à faire, à continuer, autant que malheureusement ces affaires douloureuses existent. Donc voilà, en tout cas, oui, je pense qu'on peut saluer le beau travail qui a été fait. Et j'ose dire d'ailleurs que, d'une certaine manière, la France est un peu montrée en exemple, un peu leader dans ce genre d'avancée. Nous avons ensuite parlé de la formation des séminaristes, avec cette mise à jour de ce qu'on appelle la ratio, la ratio studiorum, enfin, tout ce qui est le programme des études concernant les séminaristes et futurs prêtres, et puis la ratio institutionalis, bon, c'est des expressions en latin, mais vous voyez, c'est la manière dont on organise la formation est à réactualiser d'une manière un peu régulière. Et donc là, le Saint-Siège nous avait demandé de réfléchir à une réforme de certains points de cette ratio, sachant que chaque, en fait, conférence épiscopale doit rédiger sa propre ratio, qu'on appelle du coup une ratio nationalis. C'est chaque pays qui doit sur la base, bien sûr, des indications données par le Saint-Siège, et rédiger ses propres voilà, façons d'organiser la formation pour les séminaristes, sachant que d'un pays à l'autre, il peut y avoir quand même des disparités. Hein. Donc, bon, ça nous a retenu aussi un certain nombre d'heures. Et puis, nous avons aussi, enfin, je ne vais pas forcément tout aborder, mais parler du sanctuaire de Lourdes, puisque un nouveau statut, en fait, a été voté, qui fait passer les sanctuaires de Lourdes d'un statut diocésain à un statut national. Là aussi, c'est le Saint-Siège qui a été un petit peu stimulateur de cette modification de statut, sachant que, bien sûr, le sanctuaire de Lourdes est à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, et il le restera, et donc il sera toujours sous la juridiction de l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, mais un autre évêque, qui est déjà d'ailleurs en place, puisque c'est Mgr Antoine Héroir, a été désigné pour faire le lien voilà, entre l'Institut pontifical pour la nouvelle évangélisation, enfin le Conseil pontifical, pardon, puisque c'est ce conseil-là qui est en charge des sanctuaires, avec Mgr Rino Fisichella, l'Église de France plus largement, puisque nous voyons bien que tous nos diocèses sont intéressés par le sanctuaire de Lourdes. Il a une dimension vraiment nationale, ça c'est vrai. Alors voilà, donc bon, ça s'est fait, il fallait le faire. Et puis maintenant, donc ça changera pas beaucoup les choses, mais il faut peut-être le dire.
Voilà, acté.
Acté.
Ouais. Et voilà. Monseigneur Scherrer, je pense que tous ces sujets que vous avez abordés lors de la conférence, de la session plénière de la conférence des évêques de France, méritera peut-être qu'on s'arrête un petit peu dessus. Mais je voudrais juste qu'on dise un mot quand même de votre rencontre d'aujourd'hui avec nos prêtres du diocèse.
Oui, oui, tout à fait.
Et pareil,
nous avons
eu
une rencontre, c'est la première pour nous en visioconférence, donc rencontre des curés, des prêtres coopérateurs, des administrateurs, des coordinateurs paroissiaux, laïcs, hein, et de même une adjointe laïque à la pastorale qui est Claire Leblay. Donc nous étions une quarantaine hein, sur visio, et donc on a fait bien sûr le point de l'actualité. Hein. Avec ça aussi, j'en ai pas parlé, mais l'Assemblée plénière en visioconférence, ça nous a beaucoup retenu, bien sûr, toutes les questions qui touchaient les attentats, oui. Bien sûr, et Nice qui a été meurtrie par plusieurs drames, hein, non seulement l'attentat de Notre-Dame, la basilique Notre-Dame, mais aussi ce drame climatique, météorologique, sur l'arrière-pays niçois, qui a ravagé toutes les vallées au-dessus. Et fait beaucoup de victimes aussi, plusieurs en tout cas. Donc on a évoqué bien sûr le climat très insécurisant hein, dans lequel nous vivons et qui est bien sûr accru par la crise du coronavirus, l'épidémie, qui ne semble pas, en tout cas chez nous, se tasser parce qu'on voit que ça flambe là en ce moment très fort. Et du coup, cette histoire d'un recours au Conseil d'État, etc., bon, non pas pour nous déresponsabiliser comme citoyens par rapport aux consignes qui nous sont données, bien sûr, les catholiques jouent le jeu à fond, mais simplement pour redire que le christianisme n'est pas une religion de la conviction privée et que c'est un droit fondamental des chrétiens de pouvoir se rassembler pour célébrer la messe. Maintenant, entre les désirs tout à fait légitimes des chrétiens et la réalité, bien sûr, y a un fossé. Et voilà. Donc, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore entendu le Premier ministre qui doit parler ce soir. Mais voilà, tout ça pour dire que nous faisons au mieux dans des situations qui sont quand même inconfortables et nous naviguons à vue. Donc, on fait comme on peut. Et il faut garder, bien sûr, l'espérance au cœur et garder ce désir de porter la bonne nouvelle dans les conditions qui sont les nôtres. Je crois que c'est tout un programme.
Voilà. Merci beaucoup, Mgr Scherrer. On a réussi à tenir dans le court temps qui nous est imparti, finalement. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite et pour développer toutes ces questions. Donc, un grand merci.
Merci à vous et bon courage. Prenez soin de vous.
Et puis, rendez-vous à dimanche pour la messe retransmise sur Radio Fidélité.
Oui. Au revoir.